Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Ashley a toujours rêvé d'aventure, d'une vie marginale d'artiste et ne souhaitait pas vraiment devenir mère un jour. Alors bac en poche, elle part voyager à travers le monde, elle a ce besoin de partir à la rencontre de l'autre. Après des années de vadrouille, elle rentre à Paris, mais elle étouffe vite dans cette vie trop rapide, routinière, elle qui est nomade dans l'âme. Ashley va donc partir à la rencontre cette fois-ci de ces personnes qu'on ne regarde pas, ceux qui vivent dans la rue, qui vivent au ralenti, à contre-temps. Pour faire partie du groupe, elle va s'essayer au crack, cette drogue qui va petit à petit la rendre complètement accro. Elle rend son appartement et pendant 4 ans, elle vit dehors, en duo avec son chéri. Jusqu'au jour où elle découvre sa grossesse et que les dés de sa vie sont complètement relancés. Comment vit-elle sa grossesse alors qu'elle est addict au crack? Comment s'est-elle servie de son expérience pour rebondir autrement? L'histoire d'Ashley montre que tout est possible, que le tourbillon de la maternité peut souffler les bonnes décisions. Elle qui est passée de SDF à maman entrepreneur, de la rue à la Maison Blanche, de marginale à mère d'un petit garçon. Bonne écoute.
Bonjour Ashley.
Bonjour.
Merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Merci à toi pour cette invitation.
Avec grand plaisir. Alors toi, tu es la maman d'un petit garçon. Quel âge il a ?
Il a 5 ans.
Ouais. Alors on va revenir au tout début, même avant ça. Toi, quand tu étais plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité ? Est-ce que tu as toujours voulu devenir mère ou pas du tout ? Ça t'intéressait pas du tout ?
Alors ça ne m'intéressait pas du tout.
Ouais.
Pas du tout, j'ai toujours eu une âme assez romanesque, voilà, à m'imaginer journaliste, écrivain, voilà, avec un café-clope jusqu'au bout de la nuit, aller de pays en pays, d'amant en amant, de voyage en voyage, donc j'avais pas du tout, pas du tout ce désir-là. Voire même, je me complaisais en fait dans l'idée d'une vie de femme solitaire.
Ouais.
J'aimais bien cette idée-là.
Et t'avais pas de bébé autour de toi ou de petits frères, petites sœurs
J'avais... Alors, ma mère s'est remariée quand j'étais assez jeune et a eu une seconde fille avec mon beau-père. Avec qui je m'entendais pas très très bien, bon, classique, hein, parce que voilà, c'était la petite nouvelle. Et mon père, de son côté, lui, avait voilà, une grande famille recomposée avec 5 ou 6 enfants, je pense.
Okay.
Donc j'ai connu un petit peu les deux côtés en faisant des allers-retours. Mais j'ai jamais, en tout cas à cet âge-là, à l'âge de l'enfance, j'étais assez solitaire en fait, comme enfant, assez réservée, introvertie.
Ouais.
Donc j'avais pas, j'ai pas trop eu ce truc d'apprécier, on va dire, jouer avec les frères et sœurs, etc. C'est pas un truc.
D'accord. Donc toi qui t'imaginais écrivaine, journaliste, du coup t'as fait un parcours scolaire dans ce sens-là ?
Pas tout à fait non plus. on va dire que je suis partie déjà, donc moi j'ai été élevée à Ibiza jusqu'à mes 13 ans à peu près.
Okay.
J'ai décidé ensuite de partir voir si l'herbe était plus verte ailleurs, donc je suis allée vivre chez mon père qui habitait à l'époque à Istanbul, donc j'ai passé 2 ans là-bas. Et ensuite j'ai décidé de partir cette fois-ci seule à l'internat français, au premier internat français du lycée de Tel Aviv, du lycée français de Tel Aviv.
Ok.
Où là-bas j'ai passé pas très très longtemps et j'ai décidé en fait de quitter le lycée et de terminer mon bac en candidat libre parce que j'estimais que le système scolaire ne me convenait pas en fait, que j'avais des capacités mais que le cadre, en tout cas le système qui était proposé n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux pour moi. Donc j'ai passé mon bac toute seule en candidat libre et ensuite une vie de... une envie de bouger, en fait, m'a prise plus qu'une envie d'étudier.
Ouais, t'as toujours ce truc d'aventure, ouais, finalement, c'est solitaire.
Toujours, c'est ça. J'ai toujours eu envie de travailler, déjà, plus qu'étudier.
Ouais.
J'avais quand même... donc j'ai fini par avoir des très bons résultats à mon bac, etc., ce qui n'était pas forcément donné au vu des résultats que j'avais avant, mais... voilà, l'idée de repartir sur un cursus de 3-4 années, même l'idée, en toute sincérité, de l'inscription, qui pour moi a été une administration monstrueuse, m'a complètement découragée, en fait. Et je me suis dit, bah, de toute façon, je veux travailler, je veux apprendre sur le tas. Et donc, je suis partie en Australie.
Ok.
Voilà.
Et donc là, t'as fait quoi, là-bas ?
Alors, en Australie, bon, c'était il y a une dizaine d'années maintenant, c'était pas encore autant la mode que maintenant, mais... je suis arrivée à Sydney et puis...
Donc là, tu connais personne.
Alors, j'ai pris un aller simple, je connaissais absolument personne et j'avais une centaine de dollars en poche.
Okay.
En fait, j'avais travaillé pile poil un mois à Paris et je me suis dit, avec un mois de salaire, j'ai de quoi prendre mon billet à 1000 et quelques balles, quoi. Et je me dis, bon, j'ai 150 balles pour arriver là-bas. Sauf que j'avais pas du tout pris en compte le coût.
Bah oui,
le coût de la vie en Australie. Donc en plus, il y avait une inondation, je me rappellerai toute ma vie. Je rentre dans un supermarché et là, je vois un kilo de bananes à 22 dollars, le kilo de poulet à 13 dollars. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, en fait? Donc un peu une surprise. Puis bon, j'avais quand même aucune expérience professionnelle, donc je commence à aller déposer des CV dans des restos, des trucs comme ça, sauf que personne veut me prendre parce que j'ai pas d'expérience, quoi. Et puis là, je rencontre deux mecs dans une auberge de jeunesse, deux Français, un duo d'enfer avec un grand rebeu et un petit juif, quoi, qui étaient ensemble, qui étaient vraiment meilleurs potes. Et donc on commence à parler, on parle toute la nuit, ils me racontent qu'ils sont en train de faire un tour du monde. Et qu'ils ont fait 6 mois de pause en Australie pour bosser un peu et pour gagner de l'argent. Et ils me disent, bon, et toi, tu fais quoi? Je dis, bah, moi, je suis là, quoi. J'ai pris une petite bière avec mes derniers copecs. J'ai plus grand chose. Et bah, écoutez, on verra demain, quoi. Ils me disent, mais nous, on a un plan d'enfer. On part dans le nord de l'Australie, à Darwin, sous les tropiques, là. Apparemment, il y a un casino qui recrute. C'est le début de la saison. Et en fait, on passe vraiment toute la soirée. On s'entend super bien. Ils me disent, non, mais en fait, c'est bon. On a une solution. Nous, on va te prendre ton billet d'avion.
Ah,
tu viens avec nous. Et en fait, là-bas, on est sûr que tu vas trouver du travail. Donc, tu parles anglais, français, espagnol. C'est bon, quoi. Donc, viens avec nous. On te paye le billet, on te paye l'hôtel quand t'arrives. Et dès que tu trouves du taf, tu nous rembourses. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis partie avec eux le lendemain ou le surlendemain, quoi.
Ah ouais, incroyable.
C'est ça.
Et donc, t'arrives là-bas, t'as du travail.
J'arrive là-bas, j'ai trouvé du travail au casino le lendemain. Le surlendemain, j'ai trouvé un taf à midi dans un autre resto. Et le week-end, je travaillais dans un bar en extra. Donc, en très, très peu de temps, j'avais bien enfoui les caisses.
Ouais.
Et je m'y suis vite... je me suis pris au goût de l'indépendance, en fait, tout simplement. Donc, j'ai commencé... Je faisais que ça, en fait. Je faisais que de travailler. Que de travailler. Et j'ai passé quelques mois là-bas.
Ouais. T'es resté combien de temps, du coup, en tout, en Australie ?
En tout, en Australie, je suis restée 2 ans.
Ouais. Et après, t'as fait quoi ?
Après, je suis partie un an en Asie, principalement en Thaïlande et un petit peu en Birmanie.
Ok.
Pareil, bon, j'étais arrivée un petit peu... J'ai une problématique d'ennui qui a toujours été un peu le fil conducteur de ma vie. Au bout de 2 ans en Australie, j'avais un petit peu l'impression d'avoir fait le tour. Et voilà, sur un coup de tête, je me suis dit, bah, je vais prendre le billet d'avion le moins cher que je trouve pour partir d'Australie. Et donc, j'ai atterri en Malaisie.
Ok.
Malaisie, où bon, j'ai pas trop kiffé, mais après, j'y suis pas du tout allée dans des bonnes conditions. Là, la Malaisie, c'est quelque chose qui se prépare. Voilà, il faut un itinéraire. Moi, j'ai pris pareil, un aller simple. Et je me suis dit, bon, on verra sur place. Sauf que bon, c'était pas simple, quoi. Donc, du coup, je suis vite remontée à Bangkok. Et là-bas, j'ai fait pas mal de choses. J'ai passé beaucoup de temps dans un club de boxe à m'entraîner et à travailler là-bas aussi. Après, je suis partie un petit peu me balader au Triangle d'Or. J'ai atterri en Birmanie. J'ai passé un petit peu de temps dans un monastère là-bas. Et après, je suis repassée par Paris et ensuite, je suis partie au Brésil.
Ouais, grosse voyageuse, quoi.
C'est ça.
Et alors, du coup, quel était ton rapport à ce moment-là avec tout ce qui est... drogue, est-ce que déjà à ce moment-là, je sais pas, tu fumais des joints
Alors à ce moment-là, j'étais plutôt stakhanoviste du travail qu'autre chose. Moi j'ai toujours eu, avant la drogue, avant quoi que ce soit, une nature, on va dire, propice à l'addiction, surtout avec l'alimentaire, en fait, voilà, des troubles du comportement alimentaire dans l'adolescence qui finalement ont créé une relation un peu complexe à l'acte de manger en lui-même. Et c'est vrai qu'au-delà d'une addiction à la drogue, ou autre chose. Moi, la toute première pulsion à laquelle j'ai fait face, à laquelle je vis encore aujourd'hui au quotidien, c'est l'alimentaire.
Okay.
L'alimentaire qui, du coup, elle-même entraîne par mesure compensatoire beaucoup d'addiction au sport, avec lesquelles je pars in and out en phase, quoi.
Ouais.
Et du coup, le travail sur ces jeunes années. Et voilà, donc non, après, voilà, j'ai quelques expériences récréatives, mais il n'y a pas de gros passifs, quoi.
Mm.
En tout cas, à cette époque-là.
Ouais. Et alors, à quel moment, justement, t'as une bascule
la bascule s'opère quand je quitte le Brésil pour revenir en France, revenir à Paris sur voilà, une idée coup de tête, sur un projet entrepreneurial un peu bancal.
T'avais quel âge, là ?
J'avais 22 ans, je pense.
Ouais.
21 ans, 22 ans. J'ai une très mauvaise notion de la temporalité par les chiffres, en fait. Ça arrive souvent quand les gens me disent « Ah oui, c'est super, et donc c'était en quelle année ?» Et je suis incapable de répondre. Donc je suis obligée de faire des décomptes. Maintenant, c'est pratique, j'utilise mon fils. Donc je me dis « Ah, mon fils a 5 ans. » Donc c'était il y a moins 5, plus la grossesse, moins 6. Mais ouais, je devais avoir à peu près 21, 22 ans. Donc j'arrive à Paris suite à une rencontre voilà, pour monter un projet un peu de business avec le Brésil, et bon, ça s'est pas très bien passé, donc au final je me suis retrouvée à Paris en plein mois de janvier, un peu déprimée finalement, après ces années-là de liberté, de débrouillardise, etc. Et j'ai pas très bien vécu la transition, en fait.
Parce que là, du coup, tu retournes chez ton père ?
Non, là, je loge un moment chez mes cousins et je trouve un travail dans une boîte de sécurité comme secrétaire.
Ok.
Mais bon, je tiens un mois et en fait, je passe beaucoup de temps, je passe beaucoup de temps dehors, en fait. Enfin, dehors, au Starbucks de la gare Saint-Lazare. où finalement, je sais pas, je ressens plus d'affinité, en fait, avec les gens que je vois qui traînent dehors... qui sont un peu baba cool, on va dire, entre guillemets, qu'avec voilà, le monde du travail parisien que j'avais pas du tout connu. Et en fait, je sais pas, de fil en aiguille, je passe de plus en plus de temps avec ces personnes-là, et je trouve ça hyper, presque comme une nouvelle aventure, en fait. Je me dis, mais en fait, il y a tout un monde qui habite sous terre, à Paris. Il n'y avait pas encore de notion de crack ou pas, hein, c'était vraiment juste voilà, comme des beatniks, quoi, on va dire, des beatniks citadins. Et je me dis, bah... franchement, de toute façon, là, je suis pas heureuse, j'ai besoin de faire quelque chose, ça m'intéresse, peut-être que... Je sais pas, moi, j'ai toujours voulu écrire un livre, voilà, comme on en a parlé au début. Je me suis dit, peut-être que ça me donnera une aventure assez folle pour pouvoir écrire un bouquin. Enfin, je pars vraiment dans cette naïveté-là, en fait, de me dire, bah, je vais vivre une aventure, je vais partir en infiltration, on va dire. Et donc, petit à petit, bah, j'ai lâché l'appart, j'ai lâché le travail et j'ai commencé à vivre dehors.
Ah ouais, carrément.
Voilà.
Mais petit à petit, du coup, à quel moment tu te dis... Parce qu'à mon avis, le plus dur, c'était justement de lâcher ton appart, de se dire...
Ben non, parce que moi, j'ai jamais eu d'attachement au concept de logement, en fait, de foyer. Je suis pas du tout casanière. J'ai habité voilà, beaucoup dans des auberges de jeunesse. J'ai loué des apparts à droite, à gauche, en coloc. Mais j'ai pas ce... Après, l'appart n'était pas à moi aussi, donc j'avais pas d'histoire de bail, etc. Je logeais chez mes cousins à l'époque, mais...
voilà, t'étais une madrouilleuse, quoi.
Ouais, j'avais pas beaucoup d'affaires, en fait. Je revenais du Brésil, j'avais peut-être une valise. Enfin voilà, il y avait pas cette notion de qu'est-ce que je fais de mes affaires.
Ouais.
C'était très très simple, en fait. J'ai laissé 2-3 bricoles, j'ai pris un petit sac à dos, et en fait, au fur et à mesure, je faisais des allers-retours de plus en plus espacés, et un jour, bah, j'ai arrêté d'y aller, quoi.
Ah ouais.
Ça s'est fait assez,
assez petit à petit, comme tu disais,
assez naturellement, quoi. Et voilà, donc j'ai commencé à passer un petit peu de temps dehors. En plus, c'était l'été. C'était un petit peu plus agréable. J'avais rencontré un espèce de vieux... un vieux baroudeur qui venait des Antilles, qui ressemblait un peu à... Comment il s'appelle ? À Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes, mais en version vieille et un peu abîmée, quoi. Du coup, il avait un petit peu cet air un peu affable, là. Il s'est révélé pas être très gentil sur la finale, évidemment. Mais en tout cas, voilà, j'avais cette espèce de grand-oncle voilà, qui me faisait faire des tours dans Paris, qui me montrait des endroits un peu inconnus. Et en tout cas, à l'époque... c'est ce dont j'avais besoin, quoi. J'avais besoin d'aventure. Donc j'ai passé un petit peu de temps, et après j'ai rencontré la personne qui est du coup le père de mon fils, dehors, qui était lui aussi dehors, avec qui on a eu une histoire, on a eu une belle histoire, on a eu une vraie histoire d'amour pendant plus de 4 ans. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai passé autant de temps dehors. C'est pas lui qui m'a fait commencer, hein. Souvent on me demande la question parce que c'est pratique, on va dire, dans l'histoire.
Le coupable.
Ouais, voilà, le mec qui t'a fait, mais non, moi j'avais. Je ne savais pas trop ce que c'était, on m'en avait proposé. Moi, j'ai toujours un peu voulu toucher à tout et essayer, surtout pour le principe de me dire, bah, au moins je sais ce que ça fait. Voilà, et c'est vrai que bon, je ne le pose pas comme vérité absolue, mais souvent quand on parle de cette drogue-là. Voilà, on imagine, il y a ce mythe de, d'être accro dès la toute première prise, comme quoi on peut plus se lever, on peut... Dans mon expérience personnelle et dans ce que j'ai pu connaître, c'est pas aussi radical que ça, c'est quelque chose qui se construit en fait, c'est comme tout. Donc au début, voilà, c'est surtout pour participer au groupe, pour appartenir en fait.
Ouais.
Comme quand on boit en soirée et qu'on a 13 ans, comme quand on fume un joint parce qu'on est autour d'une table, là c'était pareil, c'est juste que vu que j'étais dans cet écosystème-là, bah, c'était autre chose quoi.
C'est tenté. Et donc, bah, comment ça se passe cette vie nomade dehors avec la drogue
Bah, je pense que... Je sais pas, à l'époque, on va dire, dans mon prisme de perception de l'époque, il y a des choses intéressantes, des choses qui le sont moins. C'est quand même... c'est très intéressant, en fait, d'être dans cette position-là. Mmh. Je peux pas dire que je le recommande à tout le monde, parce que pas du tout, mais... en fait, quand on vit comme ça, un petit peu en marge de la société, on est vraiment en position d'observateur. On a une denrée qui est très rare. Moi, je me rends compte aujourd'hui, en étant mère, avec l'entrepreneuriat qui s'appelle le temps. C'est-à-dire qu'on a le temps, on a des journées entières, on n'a pas grand-chose à faire à part voilà, trouver un peu à manger, trouver un peu de sous et éventuellement aller acheter 2-3 trucs à consommer. Mais en fait, il y a une espèce de distorsion temporelle, il y a une baisse voilà, des curseurs de responsabilité. Après, il y a évidemment toute la contrepartie qui est très dure, le froid, trouver des endroits où dormir, la sécurité, la peur, la faim, etc.
Ouais.
Bon, je pense qu'il suffit de regarder quelqu'un qui vit dehors. Enfin, je pense pas que voilà, ce soit très intéressant d'aller dans les détails de... Du pas cool quoi, mais en tout cas c'est vrai que ouais, c'est particulier, on voit la société, on voit le monde, on voit la ville comme peu de gens la voient finalement. On est tout le temps présent la nuit quand il y a des gens qui nettoient, enfin moi ce miracle là aujourd'hui, je sais qu'à chaque fois que je me lève un peu tôt et que je vois des éboueurs, que je me réveille et que la ville est nickel, moi je sais en fait ce qui s'est passé la nuit et je me dis mais quand même en fait tous les soirs on s'endort et on se rend pas compte que la ville la nuit elle se régénère, elle vit, enfin moi j'ai toujours trouvé ça un peu extraordinaire quoi, donc c'était une aventure, c'était une vraie aventure.
Et est-ce que tu as senti un moment où la drogue prenait peut-être un peu le dessus sur juste appartenir à un groupe, ou tu deviens addict justement
Ouais, totalement. Bah, ça a vite pris une place assez importante, si ce n'est capitale, hein, dans nos vies, dans notre vie de couple. C'était pour moi bien plus une relation d'amitié profonde en fait que vraiment une relation de couple. Je pense que ça c'est intéressant, j'ai presque fait un enfant avec mon meilleur ami en fait, plus qu'avec mon amoureux quoi. Quand on vit dehors, en tout cas dans ces conditions là on a plutôt besoin d'un compagnon en fait, c'est comme si on faisait la guerre ensemble. C'est comme si c'est quand même plus profond je pense qu'une relation, il y a une proximité, voilà, même, enfin, en termes de, on était tout le temps ensemble, en fait, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de...
Il n'y a pas de distraction.
Ouais, c'est ça, c'est une présence à l'autre, je pense, qui crée un lien qui est d'une densité incroyable, en fait, quand on est ensemble dans ce type de difficulté-là, dans... je sais pas, c'est même, enfin, en termes d'hygiène, par exemple, d'être aussi proche de quelqu'un dans ces conditions-là, c'est hyper intéressant, donc... la drogue forcément a fini par prendre une place assez importante au bout de la troisième année. Voilà, il y a les dommages qui arrivent sur le cerveau, hein, tout simplement, les paranos, les crises, etc. Donc voilà, puis bon, moi j'étais un petit peu arrivée aussi à bout de la nouveauté, quoi. C'est-à-dire que ce soit d'habiter à Rio ou d'habiter dehors à Paris, moi foncièrement ce que je recherche c'est la nouveauté en fait. Donc même à Paris, même dehors, l'aventure commençait à faner un petit peu.
Ouais. Et alors, à quel moment tu découvres ta grossesse ?
Alors, la réalité, c'est que c'est lui qui a découvert la grossesse.
D'accord.
J'avais décidé, en fait, qu'on fasse une petite pause de Paris. Donc, j'avais essayé de l'entraîner, en fait, pour aller habiter toujours dehors, mais d'aller ailleurs, en fait, juste pour prendre un peu d'air, voilà, de la drogue, de cet écosystème-là. Et la nature fait bien les choses. C'est à ce moment-là, je pense, que je suis tombée enceinte. Et en fait, en revenant, un jour, il me dit, écoute, il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui a changé dans ton odeur. Il me dit, je suis sûre que t'es enceinte. Et donc, je pars faire des examens, etc. Et effectivement, j'étais bel et bien enceinte. Donc, forte de mes convictions d'adolescente solitaire, je me suis dit, bon, bah, je vais me faire avorter, en fait. C'est simple comme bonjour, quoi. La question ne se posait même pas pour moi, quoi. Et bon, bah, petit à petit, alors lui était très très enclin à avoir un enfant, il voulait absolument avoir un enfant, voilà, il n'arrêtait pas de me dire, moi je fais pour être Charlie Ingalls, voilà, et en fait, je ne saurais pas trop l'expliquer, quoi. Après il s'est passé quelque chose le jour où je suis partie pour me faire avorter, où j'ai pas pu, ça m'a, je sais pas, c'était pas aligné, ouais. En fait, je ne le sentais pas, quoi.
T'es allée jusqu'au cabinet
J'étais sur le lit.
Ah ouais, d'accord.
J'étais au rendez-vous et là j'ai dit stop. Comme dans les films, là pour le coup on peut le dire. Stop.
On arrête tout.
On arrête tout. Là je me suis levée, j'ai couru, mais non.
Ah ouais. Et comment ils t'ont reçue d'ailleurs à l'hôpital? Parce que j'imagine que t'avais un peu le look justement de la baba cool qui traîne dehors.
Bon, je pense que ça se voyait surtout, bon, j'étais quand même assez maigre, j'avais une quarantaine de kilos, pas plus, donc je pense que j'avais l'air bien bien fatiguée. Après j'ai toujours mis un point d'honneur à rester digne et propre et présentable, je sais que j'allais tout le temps me faire mon chignon, me maquiller, j'essayais de rester quand même
coquette,
fidèle à moi-même en fait, même si j'habitais dehors. Voilà, mais après c'est surtout que moi j'ai été extrêmement honnête, c'est-à-dire que la nana, à partir du moment où je lui ai dit bon ok on arrête, mais tel est mon passif, telle est mon actualité, s'il y a le moindre risque évidemment sur le développement de l'enfant, je passerai outre ma révélation et j'arrêterai quand même, donc voilà. Et donc bon, au fur et à mesure d'une discussion elle m'a dit que si j'arrêtais tout il n'y aurait pas de problème, donc ça a été là.
C'est le vrai... au même moment en fait, toi t'as analysé toute la situation en fait.
C'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc après on a planifié d'autres rendez-vous, etc. Et on va dire que je pense que c'est comme c'est avoir de la chance ou pas avoir de chance. Il y avait peut-être une sage-femme qui était un peu plus abrupte qu'une autre, une autre qui était adorable. Il y a l'équipe Elsa qui m'a suivie. Alors, je sais pas exactement à quoi tient l'acronyme, mais en gros, c'est l'équipe sur place, à la maternité de Port-Royal, qui accompagne, on va dire, les grossesses un petit peu compliquées. Soit par précarité, soit par drogue, etc. Donc, non, ils ont été super. Ils ont été super, ils ont été très accueillants.
Et toi, tu te dis quoi, alors, au moment où tu dis que tu vas le garder, que tu retournes dans la rue
Oui, bah, j'habitais dehors à cette époque-là, donc au début, bon, je me dis surtout, en fait, je peux même pas dire je me dis que, parce que ça sous-entend qu'il y a une marge, mais en fait, de l'ordre de l'évidence, ça s'impose en moi que, en fait, je fumerai plus, en fait, c'est fini, quoi.
Ah oui.
C'est radical, c'est vraiment par, en toute sincérité, plutôt même par... je sais pas si c'est égoïsme le terme correct, mais en fait je me disais, si tu fais ça ne serait-ce qu'une fois dans tes valeurs, en tout cas dans ton code d'honneur de ce que c'est pour toi la responsabilité de porter la vie, d'être enceinte, d'être une bonne personne concrètement, si tu fais ça ne serait-ce qu'une seule fois, tu pourras plus jamais dormir la nuit en paix en fait. Et j'ai ce truc là qui est de l'ordre de l'évidence où je me suis dit, là si tu veux être ok avec toi-même pour toujours, t'as pas le choix en fait. Et je savais que si j'arrive même pas à le dire, parce que c'était pas possible pour moi en fait de m'imaginer faire ça en étant enceinte en fait. C'était pas possible. Après voilà, j'ai vu beaucoup de personnes, j'ai vu quelques nanas enceintes, franchir ce cap là et voilà quoi, tu vois ce qui se passe dans leurs yeux après, tu vois la culpabilité, tu vois la honte, tu vois les pleurs et tu sais que ça partira jamais en fait. Tu sais que la nana elle a imprimé à l'intérieur d'elle et que c'est fini en fait, donc moi j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour ma personne et pour la vie en général, et du coup je pouvais pas me faire ça en fait, ni à moi ni à l'enfant, donc voilà, c'était assez net.
Et comment ça se passe dans les faits, parce que
dans les faits c'est plus compliqué. Dans les faits c'est plus compliqué parce que bon,
physiquement
coup,
déjà
mon conjoint lui n'a pas du tout pris le cap du tout. J'ai essayé de me garder occupée, trouver un endroit où vivre, d'abord l'hôtel, ensuite un hôtel social, ensuite un appart, etc. J'ai fait tout le processus administratif, on va dire, pour pouvoir trouver une solution. Et beaucoup d'acceptation en fait. Beaucoup d'acceptation de la souffrance, des vagues qui te traversent, beaucoup de douches froides, beaucoup de pleurs, beaucoup d'épuisement, beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup de marches à pied la nuit, beaucoup de tisane, beaucoup de voilà, beaucoup d'essais de trouver une solution, trouver des choses qui vont supporter quand ça va pas. Et par contre, voilà, ne pas... je pense que ce qui m'a aidée en toute sincérité à cette époque-là aussi, c'est surtout de ne pas me dire que c'était pour toujours, en fait.
Mmh.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, surtout cette drogue-là, une image qui est extrêmement terrible, qui est justifiée, hein, moi la première, je suis la première à le dire, mais dans le sens où, voilà, à cette époque-là, moi je me dis, t'as 9 mois à tenir, en fait, quoi. T'as 9 mois, 1 an, une fois que tu peux, ne serait-ce que le mettre chez une babysitter ou quoi, bah t'iras, voilà, même si c'est pour un jour ou quoi, enfin je négocie avec moi-même, en fait, dans ma tête, quoi. Je passe des deals, je me dis, voilà, je fantasme mon organisation future avec la petite bulle que je peux me faire une fois par mois pour aller assouvir ma pulsion, enfin je négocie avec moi-même, en fait, parce que, de toute façon, c'était entre moi et moi-même, donc je me suis dit, bah écoute, oublie la société, oublie ce que les gens pensent de toi. Toi, donne tout ce que tu peux là pour assurer que cette partie-là est nickel, que t'aies rien à te reprocher, et après tu trouveras des solutions, en fait. Et après on verra, quoi.
Ah oui. Et du coup, t'étais entourée quand même pendant ta grossesse, parce que ton entourage était finalement ceux qui vivaient dehors avec toi. T'avais tes parents qui...
Alors, non, on était, en toute sincérité, on était vraiment en autarcie avec son papa. Hein. On était vraiment en bulle, donc j'avais pas trop ce groupe d'amis de la rue, quoi. Et j'ai repris contact avec ma famille, mais sur le tard, quand j'étais à 7-8 mois à peu près.
D'accord.
Une fois que j'avais trouvé un hôtel social, que j'étais un peu plus stable, etc. Là, j'ai annoncé la nouvelle imminente.
Comment ils ont réagi, eux ? Ils connaissaient tout ce que tu vivais en parallèle ?
Oui, alors ça avait fuité par une série de mes aventures, mais ça c'était arrivé à leurs oreilles, donc... il y a eu beaucoup de... Bon, ça dépend des endroits, mais beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accueil, beaucoup de crainte aussi quand même, beaucoup de doutes, un peu de jugement. Mais bon, c'est normal, c'est très compliqué, en fait, quand on part avec l'idée de base de qu'est-ce que c'est la rue, qu'est-ce que c'est ce truc, ce type de choses-là. Je, à aucun moment je peux leur en vouloir de pas m'avoir dit ah super, c'est une super idée, quoi, c'est l'idée du siècle, là t'as eu dans ta situation, j'aurais pas proposé mieux, quoi. C'était normal, en fait, enfin, même moi la première, voilà, tu me dis t'habites dehors, tu fumes du crack depuis 4 ans et tu me dis que t'es enceinte, voilà, bravo, je mets une médaille, quoi. C'était évident qu'ils allaient pas être à 100% emballés par l'idée, mais voilà, mais bon, après ils ont respecté mon choix à plus ou moins grande échelle, et ils ont proposé d'être là, en fait, pour moi, à différentes échelles, pareil, mais bon, moi j'ai quand même renoué, en tout cas, à cette période-là avec eux.
Et le papa était avec toi pendant la grossesse aussi ?
Il était avec moi, oui et non, il était là, il était pas là, il partait, il revenait, c'était très difficile.
Ouais.
Ouais. Très difficile, c'est là que pour moi, le lien, en fait, magique, que, enfin, en fait, moi, ma grossesse, elle a été tout et son contraire, c'est-à-dire que c'était vers le monde extérieur très compliqué, enfin, vers le monde extérieur avec lui, avec l'entourage, ne serait-ce que le cocon dans lequel j'étais, etc., c'était pas cool, en fait, c'était même très difficile, mais par contre, moi, avec moi-même et mon bidon, quoi, ben, j'étais trop bien, quoi, enfin, j'étais super heureuse, enceinte, voilà, j'avais ma petite routine, tous les jours, je me levais, je prenais le bus, j'allais marcher dans Paris, j'avais pas grand-chose à faire, j'avais pas de thunes, mais je sais pas, j'avais l'impression d'avoir ma petite bulle, et on était tous les deux, et j'écoutais de la musique, et je regardais les vitrines, enfin, et voilà, j'essayais de m'occuper, j'étais pas fatiguée. Après, j'ai eu la chance, hein, j'ai eu une grossesse aussi, à part des brûlures d'estomac absolument démentielles, j'ai pas eu de grosses complications, donc j'ai toujours fait en sorte de rester hyper active.
T'avais un suivi particulier ou pas, du fait
Ouais, du coup j'avais des rendez-vous un petit peu plus poussés avec cette équipe là avec la sage-femme. Après, bon, pour ce type de substance là il y a pas de traitement de substitution, en fait, donc à part te donner des nicopatchs et éventuellement des décontractants musculaires peut-être t'aider un petit peu à t'endormir, ils sont un peu limités, quoi. Donc et c'est là que moi j'ai commencé, avant même d'avoir l'idée de Mayadi, de mon entreprise, à rechercher, en fait, ma propre solution, quoi, aller lire des bouquins, essayer de comprendre comment ça fonctionne dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce que je peux mettre en place. Ah bah tiens, ils ont fait une étude sur tel et tel truc, bah je vais essayer de faire pareil pendant une semaine et je vais noter ce qui se passe. De toute façon, j'avais du temps, j'avais rien à faire toute la journée à part m'auto-ausculter et regarder, je me rappelle, Dr House sur une télé qui faisait la taille d'un timbre-poste, quoi. Donc, voilà, j'ai appris à vraiment essayer de me connaître, de comprendre, d'observer, de calibrer. Et ça a été le début, en fait, d'une hygiène de vie personnelle vis-à-vis de cette pulsion-là qui, finalement, m'accompagne encore aujourd'hui et qui est à la racine, en fait, de ce que j'ai voulu modéliser et ce que j'ai voulu développer dans cette méthode d'accompagnement qu'on propose avec ma boîte Mayadi. C'est vraiment ce truc, cette idée de se dire, en fait, il y a autant de manières d'être addict, de manières d'avoir un problème avec une substance ou avec un comportement qu'il y a de personnes sur Terre, finalement. Qui je suis, moi, pour dire que telle situation sera mieux pour une personne ou que telle recommandation ou tel conseil. Enfin, je pense qu'il faut arrêter cette idée, voilà, de dire bah, trois solutions pour, trois méthodes. Non, en fait, on est tous différents. Il y a certaines personnes qui sont plus mentales, d'autres qui sont plus corporelles, d'autres qui sont plus spirituelles. Peut-être qu'un jour, t'es spirituel, le lendemain, il t'arrive quelque chose, tu reviens dans le réel, donc du coup, t'as plutôt envie de faire un truc avec ton corps. Enfin,
ouais.
Et pour moi, l'intelligence humaine, l'intelligence de guérison qu'on a, en fait, d'autogestion qu'on a tous en nous, je pense, en fait, elle vient de ça. Pour moi, elle vient d'avoir cette capacité à s'écouter, à s'accueillir, à s'observer, à se découvrir, à calibrer au fur et à mesure des choses qui émergent ou qui changent. Et c'est comme une partie d'échec, en fait, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, bah, c'est des parties différentes qui se jouent tous les jours, et peut-être qu'on va pas faire les mêmes gestes, on va pas avoir, des fois on va perdre, des fois on va gagner, et des fois on va trouver une stratégie qui marche vachement bien, donc on va la noter dans un cahier, et à chaque fois on va essayer de la refaire. Enfin, il y a toute une c'est un art, en fait. C'est moi, ce que je propose chez Mayadi, c'est un lifestyle, et c'est vraiment pendant cette grossesse que si j'ai eu la chance d'avoir le temps, on va dire, et l'espace d'aller approfondir ce type de lifestyle là quoi.
Ouais, la petite graine était semée aussi pour ce projet là quoi.
Ouais.
Et alors, comment s'est passé l'accouchement, la rencontre avec ton bébé? Est-ce que tu étais accompagnée
Alors, l'accouchement, c'est assez rigolo parce que donc, j'ai repris contact avec mes grands-parents de qui j'étais assez proche. Et en fait, ils m'ont aidée à obtenir un tout petit studio en dehors de Paris. Et en fait, le jour où j'ai signé le bail, j'ai perdu les os.
Ok.
Donc, le message, c'était genre, c'est bon, tu peux venir, on a ce qu'il faut, quoi.
On est prêts.
On est prêts. Donc je suis arrivée à l'hôpital avec mes grands-parents et bah disons que voilà, il y avait un peu ce discours des infirmières qui m'ont dit bon bah c'est ton premier bébé, oui bon t'inquiète pas, en gros dans deux jours t'es encore là, c'est bon quoi. Et donc elle me laisse un peu dans une pièce et là moi je me concentre, en fait. Je me concentre, je pars en état quasi méditatif, en fait. Vraiment, j'essaye de me concentrer à 2000% sur ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, au lieu de me dire j'ai mal, je voulais pas fuir, je voulais être ultra présente, en fait. Et là, du coup, j'étais assez connectée à mon bébé, et en fait, je le sentais vraiment à l'intérieur de moi, quoi. Et je lui ai parlé, quoi. Je lui ai dit, c'est bon, viens, en fait, je suis prête, je t'aime, quoi, vas-y, viens, j'en veux plus que t'arrives, quoi. Non, viens, viens. Et j'ai senti, en fait, j'ai vraiment senti, en fait, le moment où il a poussé sur ses pieds comme ça, j'ai senti ses jambes se déplier et j'ai fait hop là. Je fais ok. Et donc là, j'ai appuyé sur le bouton pour que les infirmières viennent et tout ça. Et pareil, donc la nana, elle arrive, elle me fait, oui, bon, madame Taïeb, je vous ai dit que c'est bon, ça fait même pas une heure que vous êtes là. J'ai d'autres choses à faire, quoi. Je dis non, mais là je pense que vraiment je le sens, il est en train de sortir, si vous voulez venez voir, quoi. Elle me dit bon, je vais faire un tout petit tour et je reviens, en gros limite pour te faire plaisir, quoi. Donc moi je suis là genre pff, ok. Et
t'avais pas de péridurale ni rien?
Non. Ouais. Et donc elle arrive, etc. Et du coup et donc elle fait bon, on va voir ça. Et là elle enlève le drap, elle fait ah oui, effectivement, enfin, il y a beaucoup de cheveux, votre bébé et tout ça. Donc en fait il était vraiment là, en fait. Donc là tout le monde est arrivé, péridurale et pff. Et là, et donc j'ai accouché en 2h30, quoi.
Ah oui. Nickel.
Ouais, trop cool. Ouais, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que je sais que c'est pas tout le temps le cas, et je sais qu'il y a des nanas qui prennent cher quand même à l'accouchement, donc beaucoup de respect pour toutes ces femmes qui sont passées par un accouchement très difficile.
Donc là tu te retrouves maman, ça y est. Comment tu vis ces premières heures avec ton bébé? Est-ce que déjà toi, tu, même avant d'accoucher, t'envisageais ta vie en maman solo à ce moment-là, ou potentiellement tu pouvais être avec le papa?
Si je suis tout à fait sincère, on était encore ensemble à l'époque, mais en mon fort intérieur, en fait, j'ai ce souvenir de du moment où on était ensemble chez la sage-femme, du coup, peu de temps après que j'ai décidé de le garder, la nana, elle nous parlait, elle disait « Oui, vous savez, c'est des responsabilités, en gros, c'est pas une décision à prendre à la légère. » Et je me souviens que lui, il était là, genre « Oui, mais moi, je suis là, bon, il est très exubérant, bon, moi, j'étais un peu en arrière sur ma chaise. » Et en fait, je me souviens de cette réflexion intérieure, je me suis dit « Meuf, de toute façon, là, tu sais que t'es toute seule. » C'est vraiment, tu sais que là, pendant 18 ans, 20 ans, il n'y a que toi. Ouais. Je l'entendais parler en fait en arrière-plan, je me disais, bon, c'est super beau, mais tu sais que là, il n'y a vraiment que toi. Et donc, j'ai espéré, j'ai vraiment cru très fort ouais, que j'allais arriver à le ramener avec nous, on va dire, sur la voie de la vie normale. Peut-être pas normale forcément, mais en tout cas de le sortir, on va dire, de cette faille à laquelle il n'arrivait pas à résister, mais bon, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, au tout début, voilà, j'essaie ouais, d'imaginer. Mais c'est rigolo parce que à partir du moment en fait où il est vraiment arrivé, déjà typiquement moi je sais que naturellement je vais parler en anglais qui est ma langue maternelle, et on en avait un petit peu discuté avant et il m'avait dit bah moi je parle pas anglais, donc franchement non, c'est la première chose en fait qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, je pense. Ouais. et donc, avant que le bébé naisse, je me suis dit, oui, bah, en gros, je t'aime, vas-y, je vais pas te mettre dans l'embarras à parler une langue que tu comprends pas devant ton enfant. Et en fait, à partir du moment où le bébé il est né, déjà, moi, on me l'a posé dessus et je lui ai parlé naturellement en anglais, donc c'était fini.
Ouais.
Et en fait, je me suis dit, mais attends, là, l'idée, c'est pas de ménager ton ego à toi. Moi, j'ai la chance de pouvoir lui donner une deuxième langue, qui est la langue mondiale. Et du coup, ça a ouvert la première branche de réflexion de... En fait, c'est peut-être pas une bonne personne pour faire ça, en fait. Le fait que lui, il fasse passer son épanouissement à lui personnel par rapport à la chance que ça pourrait être pour l'enfant, ça a ouvert, en fait, toute une série de questionnements que je n'avais pas du tout, en fait, pendant que j'étais enceinte.
Ouais, d'accord.
Et parce que la priorité a changé, en fait.
Ouais.
Mais c'était vraiment radical. Et je me suis dit... Et limite, ça a participé un petit peu aussi à la fin. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'il peut dire une chose pareille, en fait, quoi. Enfin, quand tu vois la chance que c'est de parler anglais couramment. Donc voilà, donc il y avait plein de petits trucs comme ça. Mais bon, j'avais quand même espoir que ça marche, qu'on trouve en tout cas chacun notre place et qu'on puisse l'élever.
Ouais. Et alors, vous rentrez chez vous tous les deux. Comment ça se passe ces premiers jours en tant que maman? Est-ce que tu trouves tout de suite tes marques?
Alors je suis restée d'abord chez mes grands-parents, je pense, pendant un ou deux mois.
D'accord.
J'étais à 200%, hein, de toute façon, je sais pas, j'ai eu un petit peu de mal peut-être avec les premiers bains, ça me faisait un petit peu peur, mais sinon, non, sinon c'était hyper naturel. Après moi j'ai décidé de pas allaiter,
ouais.
Parce que je suis assez sensible en fait sur cette partie-là de mon corps et l'idée en fait non. Alors ce qui s'est vraiment passé, c'est que quand j'ai accouché et qu'ils ont mis le bébé à côté, l'infirmière est arrivée et lui a mis son petit doigt en fait dans la bouche pour attendre en fait avant qu'il puisse téter. Et là, elle a voulu retirer son doigt et j'ai vu en fait le bébé se soulever en fait de la force de succion. Ok, donc moi, bon, c'est un podcast pour Nana, j'ai des tétons hyper sensibles en fait déjà de base. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais
no way,
ça va pas marcher en fait les mecs quoi. Genre je t'aime, je ferai tout pour toi, mais là on part tout droit vers la catastrophe. Dès que je voyais ce bébé qui était en lévitation accroché à un petit doigt d'une infirmière, je pensais à mes pauvres tétons qui sortent une fois sur deux quand il fait beau quoi. Je me suis dit bon, assume, t'es une femme moderne, tu feras tout au biberon, personne n'en est mort. Oui, il aura pas les anticorps de ce que tu veux, mais c'est pas grave. Et du coup j'ai pris la décision de passer au biberon, ça s'est très bien passé, je regrette absolument pas d'ailleurs. Mais voilà, donc j'ai pas allaité, mais ouais non, c'était assez naturel, c'était un vrai bonheur, et je regrettais juste de pas être seule avec lui en fait.
Ouais. Alors quand vous êtes rentrés tous les deux,
ensuite on a la vie a repris, donc moi j'ai retrouvé du travail dans une start-up, donc bon, c'était un peu quand même le choc des cultures, après 4 ans dehors, de recommencer à travailler dans une start-up en plein Paris, en mode start-up nation, etc. C'était plus le bébé qui faisait passer nuit pour le coup, plus le conjoint à gérer qui était encore pas du tout dans le mood, etc. J'ai pas tenu très très longtemps, quoi. J'ai tenu 2 mois et j'étais vraiment à bout, déjà de fatigue nerveuse, quoi. Et après, j'ai fait une belle rencontre dans cette start-up où je bossais avec une nana à qui j'ai dit, il faut absolument que je parte de Paris, quoi.
Ouais.
J'en peux plus, en fait, c'est trop dur.
Ouais.
Et elle m'a dit, bah, moi, j'ai mon appartement à Montpellier, si tu veux, je te le mets de côté, je te le loue, là, j'allais le remettre en location. Et du coup, j'ai pris tout le monde et on est parti à Montpellier.
D'accord. Avec le papa aussi ?
Avec le papa aussi, je l'ai quitté une semaine après d'arriver à Montpellier.
Ouais. Est-ce que t'as eu des... Parce que là, ton enfant n'était plus dans ton corps, donc potentiellement, tu pouvais reprendre...
C'est ça.
La drogue, est-ce que tu as eu soit des rechutes ou soit des envies très fortes?
J'ai eu des envies très fortes, effectivement. Je trouve que le mot rechute est un peu... pareil, fait partie du type de vocabulaire. Après, on n'en a pas d'autres à disposition, donc j'entends, mais...
C'est trop dur.
Justement, je trouve que quand on dit à quelqu'un qu'il fait une rechute, bon, ça veut dire qu'il a chuté, ça veut dire que c'est... évidemment, de toute façon, ça faisait partie du deal que j'avais passé avec moi-même. Après, j'ai quand même attendu d'être vraiment, vraiment stabilisée.
Ouais.
Dans le sens où voilà, le petit avait un an, j'avais une place en crèche toute la semaine, j'avais une babysitter, j'étais plus avec son père, donc j'avais pas du tout tout son côté à gérer, on va dire. Et ouais, en fait, et à un moment, je me suis dit, bah, comme je sais pas moi, comme pour moi c'est comme quelqu'un qui se dit bah là j'ai besoin de prendre un moment pour moi, je vais passer un week-end en thalasso et je vais me faire un spa. En tout cas moi en mon fort intérieur à l'époque, et je dis pas que c'est juste ou pas, mais c'est vraiment comme ça que je vivais. Je me disais franchement t'as tout donné, t'as été ultra nickel là, ton gosse il manque de rien, il est bien, t'as un système de garde on va dire où toi tu peux prendre tout le temps qu'il faut pour vraiment que ça ne se ressente pas, que ça se voit pas. Donc vas-y en fait quoi. Et du coup je me suis organisée et ouais, de temps en temps je me suis fait des petites thalasso on va dire personnelles, et en toute sincérité bah, c'est grâce à ces espaces là que j'ai eu l'honnêteté de m'autoriser, de m'octroyer, malgré le fait que c'était tabou de chez tabou de chez tabou, bah, c'est grâce à ça qu'en fait je suis pas repartie comme en 40 en fait.
Ouais.
Parce que je pense sincèrement qu'on peut retenir et on peut contenir tout ce qu'on veut, bah, au bout d'un moment ça revient en boomerang quoi. Il suffit de voir ce qui se passe quand on fait un régime, là c'est pareil mais avec une drogue hyper addictive, donc ça marche pas. Et en fait en ayant fait tout ce processus d'arrêt, en m'autorisant toujours à me dire mais si un jour, je me disais même quand il aura 18 ans, si là tu veux repartir on va dire et dépenser tout ton argent et toutes tes économies dans une cahute à faire ça, mais tu sais quoi, mais vas-y en fait, mais juste fais ça d'abord correctement. Et le simple fait de m'autoriser à faire ça dans un futur potentiel, ben ça m'a enlevé en fait cette peur, cette angoisse de me dire c'est fini, plus jamais, il faut que je tienne coûte que coûte. Et c'est un peu ça, à échelle moindre, en tout cas, peut-être pas forcément sur le crack, mais dans la pulsion en général, en fait, c'est que, bah, c'est que cette acceptation-là et cette honnêteté face à nos limites et face à jusqu'où on peut aller sans aller trop dans le dur, bah, en fait, elle est capitale et c'est grâce à ça qu'on calibre, en fait. C'est en se disant, bah voilà, peut-être qu'au début, on va le faire, je sais pas moi, une fois par mois, une fois par semaine, trois fois par jour, et qu'en fait, bah, en se l'autorisant, bah, du coup, on y prend plus de plaisir parce qu'on n'est pas dans la culpabilité.
Ouais.
Donc du coup, on en garde une empreinte, entre guillemets, positive, même si c'est pas très bien. On sait qu'on peut reprendre notre vie après. On sait qu'on n'est pas en attente absolument d'y retourner parce qu'on a quand même pris notre dose de plaisir, parce qu'à la base, on y va quand même pour ça, hein, dans ces comportements-là. Et du coup, bah, le jour où on décide d'y retourner, on n'est pas déjà en préculpabilisation avant même de l'avoir fait, en se disant « mais je suis une mauvaise personne ». Donc quand on va le faire dans ces conditions-là, du coup, on ne prend plus de plaisir non plus. Et donc, en fait, ça crée une espèce de spirale négative qui fait que même si on le fait, on va augmenter, on va prendre de moins en moins de plaisir et au final, en fait, on va droit dans le mur, quoi. Donc ouais, je me suis organisée, je l'ai fait de temps en temps et ça a permis d'arriver à qui je suis aujourd'hui, où bah, même aujourd'hui, je même si je sais que j'y retournerai pas parce que j'en ai plus envie, je préfère me dire que si un jour j'ai envie de le faire, mais je peux, en fait. Et c'est ok. C'est ok, par contre je sais me reprendre.
Ouais.
Et je sais faire en sorte que ça me fasse pas de mal à moi et que ça fasse pas de mal aux gens qui m'entourent.
Donc là, quand t'es à Montpellier, t'as retrouvé du travail aussi sur place. Et est-ce que t'as aussi toujours en parallèle cette idée qui avait germé pendant ta grossesse, justement, de tout ce qui est addiction, tout ce que t'avais...
Alors, l'idée, elle germe vraiment à ce moment-là, en réalité. C'est-à-dire que tout ce travail de recherche qui était complètement personnel, que j'avais fait pendant la grossesse, vraiment pour moi et moi-même, était là. Et c'est bah en fait c'est tout est lié hein, tu vois cette quand j'ai vu en fait la puissance de cet accueil, de l'acceptation pardon, quand j'ai vu la puissance en fait de ce que ça avait pu générer en moi, ce simple fait de me dire bah c'est ok et j'ai confiance en toi en fait, si tu dois le faire un peu fais-le et sinon, je me suis dit mais il y a un truc à faire en fait, parce que ça personne le fait quoi.
Ouais.
Personne le fait, personne n'ose le dire, personne n'oserait ne serait-ce qu'imaginer que c'est possible, et pourtant je sais pas pourquoi mais j'étais persuadée que c'était ça la clé en fait, de s'autoriser en fait à peut-être y aller, et au lieu de parler que de sevrage, d'interdiction totale et absolue, et j'ai voulu creuser en fait ce truc là parce que moi, ça a été ma clé, en fait. Ça a été mon déclic à moi, ma solution, elle a été là, en fait. Elle a été dans... En fait, fais-toi confiance et trouve ce qui marche pour toi, en fait. Quel que soit le jugement de la société, quel que soit machin, fais-toi confiance et fais ton processus, parce que ça prend du temps, en fait. Et donc, en filigrane, en fait, entre les recherches que j'avais faites, les trucs que j'avais testés, et moi, cette réalisation que j'avais eue, en fait... sur ces années-là de gestion, et je me suis dit, mais en fait, c'est possible, quoi. Ça peut se gérer. On peut vivre avec. Je me suis dit, ben là, il faut faire quelque chose, en fait, faut partager. Et c'est là que ça a commencé. Donc, au début, je suis partie à la bibliothèque avec l'entrepreneuriat pour les nuls. J'ai fait des formations Pôle emploi sur la création d'entreprise. Mais bon, j'arrivais vraiment de zéro, quoi. Et j'ai rencontré, par hasard, quelques personnes d'un incubateur qui s'appelle Les Déterminés, qui est un incubateur extraordinaire, fondé par des personnes vraiment géniales qui fait des formations de 6 mois gratuites à l'entrepreneuriat, où on met tout un tas d'intervenants qui vont vraiment nous donner toutes les bases pour pouvoir nous lancer. Et donc voilà, j'ai suivi cette formation-là, et de fil en aiguille, l'idée, hein, on était encore au stade de l'idée, s'est développée et s'est construite à ce niveau-là.
Et donc aujourd'hui, tu as créé donc, la plateforme, enfin, c'est encore ça va sortir quoi, en janvier.
Alors la sortie prévue du premier programme, donc ça s'appelle Mayadi, hein, c'est vraiment une plateforme qui porte en fait cette méthodologie qui est devenue vraiment un modèle d'accompagnement assez universel. Moi je suis partie de cette expérience-là dont on a parlé ensemble, qui est quand même assez empirique et qui est mis de rien aussi très personnel. J'ai bien conscience que ce dont je parle évidemment ne m'est propre qu'à moi-même en fait, donc j'ai confronté ça voilà, à différents spécialistes, à différents domaines thérapeutiques, à la science cognitive, pour densifier, pour étoffer cette base d'expérimentation empirique et en fait vraiment créer un modèle qui soit adapté on va dire à l'humanité en tant que telle. Donc la plateforme s'appelle Mayadi et de cette modèle en fait vont découler des programmes d'accompagnement qui vont avoir une typologie chacun. Donc le premier qu'on lance parle de la pulsion addictive à l'alimentaire, à l'acte de manger. En France, on parle beaucoup de TCA, de troubles du comportement alimentaire. C'est comme l'addiction, je pense que c'est un tout petit peu réducteur. Aujourd'hui, il y a énormément de nuances dans la manière dont on peut avoir une relation problématique avec la gestion d'une pulsion à la nourriture, quoi. Ça peut être un contrôle excessif de la nourriture, manger bio, manger X, manger Y, ne manger que ceci, compenser par un excès de sport ou des mesures un peu purgatives. Ça peut être une restriction mentale avec parfois des crises de la nuit, des grignotages la journée ou juste du sucre une fois par mois. Enfin, pareil, c'est comme l'addiction, en fait, c'est propre à chacun, mais je pense qu'il y a une vraie pulsion, en tout cas, qui, elle, entraîne à des comportements problématiques autour de la sphère de l'alimentaire. Donc, on a voulu vraiment... voilà, appeler ça pulsion alimentaire et pas trop du comportement alimentaire. Et ce premier programme-là sera disponible sur la plateforme et sort effectivement en janvier, et si tout se passe bien.
Et après, ce sera décliné du coup pour toutes les autres pulsions, que ce soit l'alcool, la drogue, la cigarette.
Oui, tout à fait. La cigarette, peut-être en dernier, parce que c'est quand même une des choses pour lesquelles il existe le plus de choses. Et la cigarette, pour moi, a une empreinte socio-culturelle qui est très forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fume aussi beaucoup parce que, voilà, on a été un peu conditionné par ces idéaux de ce que ça représente d'avoir une clope au bec, etc. Y a une dépendance physiologique qui est réelle. Après, voilà, y a des traitements de substitution avec la nicotine. Enfin, je pense que c'est... Pardon, c'est vraiment c'est sociétal, mais la clope peut-être en dernier, mais en revanche là on va surtout lancer sur l'alimentaire, le travail, donc ce qu'on appelle en anglais le workaholism, en français qui n'a pas trop d'équivalent, mais donc c'est pas le burn-out, c'est vraiment l'addiction au travail. Donc pareil, encore une fois, est-ce que le mec qui est addict au travail c'est celui qui reste plus tard que tous les autres à travailler, ou est-ce que c'est celui qui rentre chez lui à 16h mais qui dort pas de la nuit parce qu'il y pense tout le temps, quoi. Voilà, nous on va venir un petit peu encore une fois challenger. Non mais en fait, c'est quoi l'addiction au travail, les mecs, quoi? Est-ce que c'est la faute de l'employeur? Est-ce que c'est ta faute à toi parce que tu cherches à combler quelque chose? Est-ce que t'es addict à l'adrénaline que te procure l'efficience au travail? Est-ce que finalement c'est la reconnaissance de soi, la valorisation de ton travail à laquelle t'es addict? Tu vois, on va essayer en fait un petit peu de pareil, d'aller prendre cette thématique là d'addiction au travail et d'aller l'approfondir un petit peu. Et pourquoi ces deux-là en premier? Parce que c'est les premières où c'est un peu primaire, quoi. On peut pas arrêter de manger, on peut pas arrêter de travailler pour toujours. Pour le coup, s'il y en a deux avec lesquelles on doit vivre avec, c'est bien celle-ci, quoi.
Ouais.
Donc voilà, alimentaire, travail et potentiellement la cocaïne après en troisième lieu.
Génial. D'ailleurs, quel regard toi t'as sur l'expérience que t'as traversée? Parce qu'aujourd'hui, t'en fais quelque chose qui va être concret, qui va aider énormément de monde. Quel regard du coup tu portes sur ce que tu as traversé
J'ai beaucoup d'amour, beaucoup de compassion en fait pour la femme que j'ai été, pour la femme que j'ai réussi à devenir envers et contre tous. Même aujourd'hui dans ma manière d'être mère en fait, je me trouve hyper. Enfin, je trouve que cette ancienne moi a été hyper courageuse en fait de défendre. Sa manière de voir les choses, sa manière de faire, son idée en fait de qu'est-ce que c'est l'éducation, qu'est-ce que c'est élever un enfant, qu'est-ce que c'est être une bonne personne, qu'est-ce que c'est être une bonne mère, est-ce qu'il faut être une bonne mère, est-ce qu'il faut pas juste être une mère tout court, enfin, j'ai énormément de bienveillance, énormément de respect en fait pour la force dont j'ai pu faire preuve, pour beaucoup de gratitude aussi pour tout ce que ça a pu m'apporter, pour cet émerveillement, cet amour, beaucoup de blagues à faire sur mon épuisement. Enfin, c'est une expérience qui était hyper riche et qui continue en fait, surtout aujourd'hui. Et il y a une chanson d'une artiste qui s'appelle Izia, que j'aime particulièrement, qui s'appelle La vie royale. Et en fait, je pense que c'est une chanson qui a été écrite en hommage à sa mère qui est décédée. Et en fait, elle explique que sa mère disait souvent « Je n'élève pas ma fille, je m'élève avec elle. » Et j'ai trouvé ça hyper juste et ça a complètement résonné parce que moi je le vois vraiment comme ça en fait. Enfin, moi, mon fiston, c'est un petit être humain à part entière en fait. C'est une petite créature extrêmement intéressante avec un vrai sens de l'humour, avec des vraies opinions, une expression qui lui est propre. Et je suis étonnée et je me sens vraiment chanceuse de le découvrir et de grandir en fait, de me découvrir avec lui, de découvrir mes limites, les siennes, comment on peut coordonner les deux, jusqu'où. Voilà, après c'est des choses qui se travaillent, quelle est la limite entre le cadre et la flexibilité, qu'est-ce que tu prends de l'éducation de tes parents, qu'est-ce que tu veux pas reproduire, enfin il y a un milliard de questions en fait qui s'ouvrent, quoi. Donc je trouve que c'est une aventure hyper intéressante et ouais, j'ai beaucoup de bienveillance pour la nana qui s'est dit ok, envers et contre tous, tout le monde pense que c'est une mauvaise idée, mais moi j'ai confiance et je le fais, quoi.
Et tu vas lui en parler de ton histoire à ton fils? Tu commences déjà à lui en parler ou...
Là il est un petit peu jeune, 5 ans, mais par contre oui, évidemment, moi j'ai vraiment une que ce soit entre mon fils et la télé nationale, voilà, je pense que si j'ai fait l'un je peux faire l'autre, quoi. Mais mais j'ai une transparence totale. Après l'idée c'est de lui dire quand il sera prêt à l'entendre, pour qu'il sache d'où il vient en fait, tout simplement. Et encore une fois, après je sais pas, peut-être que c'est très propre à moi-même, mais je n'ai pas de honte en fait en moi, quoi. Mais vraiment c'est je pense que c'est une expérience humaine comme une autre et dont on tire des forces, des faiblesses, des évidemment qu'il y a des choses que je regrette, il y a des choses que j'aurais peut-être fait différemment, ou pas, même pas peut-être. Mais voilà, je pense que je l'ai élevé et je l'élève dans une ouverture d'esprit. Et j'espère en tout cas qu'il aura l'accueil que moi j'ai voulu lui transmettre pour se dire c'est intéressant, quoi. Ouais. comme moi je le ferais si on me racontait la même chose. Donc voilà, mais oui, non, je lui dirais, c'est sûr.
Est-ce que tu aurais des conseils pour les parents qui, par exemple, traversent la même chose avec leurs enfants? On a peut-être souvent tous la peur que l'enfant tombe dans la drogue.
Tu veux dire, dans le rapport, moi, avec mon enfant, pour que lui n'aille pas là-bas? ou plutôt dans le... Alors, je pense que je vais répondre à ta question en deux parties parce que je pense que les deux axes sont intéressants. Au-delà de... Enfin, voilà, moi, il y a mon exemple avec, avec la drogue dure, etc. Mais sincèrement, je pense que la problématique que moi, j'ai pu vivre pendant cette grossesse, elle est la même sur un verre de vin ou sur la clope ou sur un joint. Hein. Mm. Je pense qu'il faut vraiment poser le débat et la réalité de la situation comme telle. Aujourd'hui, en France, moi, j'ai été surtout choquée du peu d'informations qu'il y a au niveau de la, des dangers de l'alcool en fait pendant la grossesse, qui en réalité est le pire des fléaux pour en tout cas la construction de l'enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a moins de risques quand t'es en substitut à l'héroïne que quand tu bois de l'alcool en fait pendant ta grossesse. Donc,
oui.
Mais ce que je veux dire, il y a un vrai problème d'éducation. Et je pense que toutes les mamans, que ce soit pour un verre de vin ou pour XYZ ou même juste pour manger équilibré, ont forcément eu des prises de tête en fait, de se dire est-ce que ce que je fais c'est bien pour le bébé, est-ce que nanana, et franchement c'est ok en fait, quel que soit ce qui se passe dans votre tête et ce qui se passe dans votre cœur, faites au mieux. Il y a certains endroits comme l'alcool où je pense qu'il faut vraiment pas y aller parce que là c'est vraiment dangereux et qu'on risque de le regretter, mais encore une fois c'est propre à moi quoi. Mais autorisez-vous à passer des deals avec vous-même quoi. ça serait vraiment mon conseil pour toutes les mamans et aussi pour tous les conjoints on va dire qui font partie du deal. Sincèrement, pour l'avoir vécu sur quelque chose qui était peut-être plus difficile, mais une femme enceinte reste une femme, reste pleine d'amour, pleine de bienveillance, pleine d'accueil et pleine de concessions. Donc peut-être qu'elle va vous dire oui, ça me dérange pas que tu fumes à la fenêtre, ça me dérange pas que tu sois en train de boire une bouteille de vin devant moi ou quoi que ce soit, mais en fait peut-être qu'au fond ça la fait chier quoi. Peut-être qu'au fond c'est très difficile et si soit vous avez l'ouverture et la relation assez fluide avec l'autre personne pour lui dire franchement je suis désolée mais je préfère éviter le moins possible tout type de stimuli parce que c'est désagréable pour moi, mais ça veut pas dire que je te laisse pas faire ce que tu veux et tu peux aller avec tes potes, tu peux faire ce que tu veux, mais s'il te plaît c'est trop dur pour moi, ou en tout cas ça me provoque quelque chose qui est pas agréable et c'est ok en fait, il faut le poser parce que sinon l'autre personne ne peut pas le savoir.
Ouais.
Et si c'est pas possible du tout, de le dire aussi en fait, et à soi-même de se le dire à soi-même, si c'est trop dur on n'y va pas en fait, on va pas à un dîner entre potes, un cocktail, on va pas faire une soirée cinéma chez nos amis qui fument joint sur joint si nous on n'en fume plus ou qu'on veut pas en fumer. Enfin, il faut aussi poser ses propres limites en fait, savoir jusqu'où on est prête à aller, jusqu'où le des fois c'est pas tout de tenir en fait, il faut aussi se ménager quoi. L'idée c'est pas de tenir dans la souffrance, donc essayez d'accommoder du mieux possible votre environnement et votre contexte et vos limites pour que ce soit le plus fluide possible. Et ensuite alors par rapport à l'enfant, là non, moi j'ai aucun conseil, moi j'ai quand même fait les 400 coups, donc si j'essaye de le mettre dans l'autre sens, qu'est-ce que mes parents auraient peut-être pu me dire qu'ils auraient pu... Rien,
ouais.
Ça fait partie du processus de chacun, je pense vraiment qu'on peut s'inspirer des modèles des pays comme la Hollande, comme la Suède, etc., qui sont, ou du Canada même, qui sont très très avancés par rapport à nous en France sur la manière dont on communique sur ces choses-là, sur le fait de, quitte à le faire, faites-le en sécurité, adoptez des bonnes pratiques, on va pas ne pas en parler parce que c'est tabou, on va plutôt bien en parler, comme ça vous savez exactement à quoi vous avez affaire, quels sont les effets, qu'est-ce qu'il faut faire si un ami dans votre entourage le vit mal, etc. Enfin, en fait, eux, c'est bon, ils ont compris, quoi. Ça fait partie de notre quotidien. De toute façon, aujourd'hui, si vous avez Netflix, mais vos enfants, il suffit qu'ils regardent une série pour qu'ils connaissent 4 des 5 drogues les plus consommées sur Terre et qu'ils voient plein de gens avec des verres de whisky, donc c'est évident qu'ils vont forcément aller voir un truc ou un autre. C'est obligatoire, en fait, donc... Voilà, soit on part du principe où on se dit ok, j'accepte que mon enfant est une personne à part entière et qu'il ira faire son chemin. Peut-être que ça l'intéressera pas du tout, peut-être qu'il va adorer ça, peut-être que je suis fumeuse qu'il le sera pas. On s'en fout en fait et on sait pas. Mais en tout cas, de se dire qu'il y aura une partie du cheminement qu'on ne maîtrisera pas et qui ne dépendra pas non plus de l'éducation qu'on lui a donnée.
Ouais.
Parce qu'il y a aussi son écosystème, il y a sa personnalité, il y a les choses qu'il va traverser et ça c'est ok, c'est comme ça. Et en fait, d'essayer dans une éducation globale, hors du faisceau de qu'est-ce que je peux lui apprendre pour qu'il tombe pas dans la drogue, de l'éduquer en fait à être une personne éveillée tout simplement quoi. de l'éduquer à être quelqu'un qui est en conscience, qui est sûr de lui, qui est capable de poser ses propres limites, qui est capable d'expérimenter sans partir en plus avec l'eau du bain de tout le monde. Enfin, pour moi, c'est ça, en fait, faire en sorte qu'un enfant ne tombe pas dans la drogue, c'est pas lui dire fais-le ou fais-le pas, c'est faire en sorte qu'il ait les capacités parallèles, on va dire, transversales, à avoir du discernement, à pouvoir prendre des bonnes décisions, à se sentir assez aimé et assez en sécurité pour en parler autour de lui s'il sent qu'il dérape un petit peu, peut-être pas à ses parents, mais en tout cas à ses amis. Ou, enfin, vous voyez, c'est un ensemble pour moi de comportements et de principes, voilà, de vie, d'amour de soi, de respect et d'amour de la vie qu'on peut inculquer, qui, je pense, en tout cas sur la globalité d'une enfance et à l'adolescence, peuvent en fait donner une base solide sur laquelle ils peuvent s'appuyer pendant leur expérimentation qui arrivera forcément, en fait.
Ouais.
Je le verrais plutôt comme ça. Mais c'est vraiment, encore une fois, hypothétique et personnel.
Bon, je tiens à préciser que cette meuf était à l'Élysée, à la Maison Blanche. Faut quand même le dire, hein.
Ouais. C'est vrai, tout à fait. Alors, j'ai pas partagé ma vision périphérique de l'éducation là-bas, mais grâce aux déterminés, on a eu la chance d'être reçus. On a été 5 entrepreneurs à remporter un concours. On a été reçus à l'Élysée par Marlène Schiappa, à qui on a exposé nos projets respectifs. Et ensuite, à Washington, à la Maison-Blanche. Donc, on a fait voilà, une grande réunion de présentation de nos projets. La porte est ouverte aux États-Unis. Écoutez, un jour peut-être.
Ouais, ouais. Incroyable, ouais. T'imagines?
Ouais, c'est incroyable.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité?
La maternité, pour moi, ça... Bah, ça a tout changé, quoi.
Ouais.
Ça a vraiment tout changé. Ça a changé mon rapport au temps, mon rapport à l'énergie, mon rapport à la responsabilité, mon rapport à la solitude, mon rapport à l'amour. Mon rapport à moi-même, mon rapport à la société, ça a vraiment... ça a un peu tout... je peux pas dire bousculer ou retourner, parce que c'est faux, mais en tout cas, ça m'a amené à une recalibration de tous ces paramètres. C'est-à-dire que j'ai été obligée de repasser par tous ces trucs-là, un par un, en me disant « Ok, là, tu peux plus te comporter comme tu te comportais avant, ou en tout cas, tu peux plus réfléchir comme tu réfléchissais avant, parce que ça marche plus. » Donc, reprends en compte, en fait, tes paramètres, en prenant le nouveau paramètre en compte. Et ça m'a amené beaucoup d'humilité, je pense. Beaucoup d'humilité d'apprendre, en fait, d'un enfant. Mm. Parce que je pense qu'un enfant vous apprend autant de choses que vous lui apprenez. Ça m'a poussé à travailler ma capacité d'écoute. Ça m'a poussé à essayer de d'effacer mon ego au maximum, en fait, pour prendre des décisions avec le cœur, avec les tripes, et pas forcément d'imposer mon modèle de la réalité sur un enfant. La difficulté, elle est toujours de se dire est-ce que je lui impose mon modèle de la réalité parce que c'est ce que je veux, ou est-ce que c'est parce que c'est juste. Donc ça m'a entraînée à travailler ma justesse, en tout cas à essayer de travailler ma justesse dans la prise des décisions. Ça m'a forcé à avoir un cadre, à avoir une stabilité, moi qui ai toujours déménager, habiter à droite, à gauche, c'est fini, en fait. Cet enfant a besoin d'un foyer, a besoin d'une maison, a besoin d'une routine. Donc ça m'a finalement, en fait, amené, moi, à titre personnel, à confronter mes plus grandes peurs. Donc bah, ça peut avoir l'air un peu ridicule de dire que ma plus grande peur, c'est la routine, mais bon, c'est un peu le cas.
Mais c'est quand même une sacrée aventure, la maternité,
ouais,
finalement.
Ouais, ouais, c'est vraiment... c'est transformateur, quoi. Après, je par rapport à ce que j'en avais fait, où je pensais vraiment pas du tout apprécier ça du tout, en tout cas en tirer rien du tout de positif, c'est sûr que par contre j'ai été clairement très très surprise, quoi, parce que c'est beau.
Est-ce que tu dirais que ça t'a sauvée?
Oui, alors j'ai un problème avec ce terme, parce que sauver, c'est toujours... voilà, y a une victime, un bourreau, un sauveur. Je trouve ça... Ça fait un petit moment qu'on discute ensemble. Tu vois que j'ai un truc avec les mots. Pour moi, c'est vachement important. Mais en fait, c'est globalement pourquoi... C'est comme... en fait, pour moi, soit on travaille ou on fonctionne en allant sur les peurs, en travaillant globalement sur une palette de mots, de comportements qui sont un peu de l'ordre de la peur, de l'anxiété, de la négativité, ou soit on essaye d'aller de l'autre côté, alors ça fait un peu perché, mais sur l'amour, quoi. Mmh. Et pour moi, quand on dit, voilà, entre sauver ou révéler, Moi, c'est pas pareil, en fait. Ouais, et moi, en fait, je pense que ça a été quelque chose qu'on a fait ensemble, en fait. Mon fils, par sa simple apparition, ne m'a pas sauvée, en fait. Il m'a sauvée de rien du tout. Par contre, ensemble, on a transcendé mon état qui était actuel et on a construit quelque chose qui, aujourd'hui, m'a complètement transfigurée, quoi. Ouais. Mmh. Et je trouve que, voilà, c'est aussi pourquoi ce mot sauvée-là, je le trouve un petit peu difficile. C'est qu'en fait, quand on admettons là aujourd'hui, je dis oui, mon fils m'a sauvé. Je pense qu'en imprimant ça dans mon cerveau et dans la réalité et dans le rapport que j'ai à lui, je trouve que ça met un poids monstrueux en fait sur cet enfant, quoi. Ouais. De se dire que c'est lui, petite graine, petit bébé, qui m'a sauvé moi, adulte de 30 ans. Non, en fait, il a permis, il a été catalyseur, il a été décisif, il m'a permis de faire une déviation, il m'a donné de la force, il m'a accompagné, il m'a fait mûrir, il m'a challengé, il m'a fatigué, il m'a épuisé, il m'a saoulé. C'est bon, on en a tout eu, quoi, mais en fait il m'a surtout fait grandir, en fait, quoi. Il m'a proposé un élan de vie, il m'a proposé une opportunité qu'on a pu saisir ensemble. Vous voyez, je trouve que c'est plus juste et ça remet en fait la juste place aux deux personnes, parce que je pense que de la même manière qu'un enfant ne sauve pas un parent ne sauve pas un enfant, en fait. C'est une relation qui est à 50-50, quoi. Mais sinon, oui, dans l'idée, effectivement, ma vie a pris un tournant décisif depuis son arrivée.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman montpelliéraine?
Être une maman montpelliéraine, quand on a connu Paris, c'est toujours être dans l'hésitation de se dire oh, j'aimerais bien quand même élever mon fils à Paris pour qu'il voit la vraie vie, la ville, et qu'on puisse aller faire plein d'expositions pour enfants ultra perchés. Mais en même temps, je suis bien contente de ne pas être obligée de prendre le métro pour l'amener à l'école le matin.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Montpellier?
Le parc. non, kids-friendly... Mais j'aime bien le MOCO, le musée d'art moderne. J'aime bien l'amener aussi au grand centre commercial Odysseum où il peut faire de la trottinette en liberté. J'aime bien faire du trampoline avec lui. Ça, je pense que ça serait mon activité préférée.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille?
Alors, mes projets rien que pour moi, dormir. Je pense que là, c'est quel que soit le moment de temps que j'ai face à moi, j'ai beaucoup de sommeil à rattraper. Non, des projets personnels, ben moi je suis très très concentrée sur le professionnel. Voilà, on a un livre aussi qui sera publié et sorti en mars. Et j'aimerais bien peut-être retourner en Israël pour voir ma famille avec mon fiston. Projet familial, je pense que mon fils a un attrait particulier pour la trompette, donc j'espère qu'il va pouvoir commencer à prendre des cours de trompette pour le régal de mes oreilles en début d'année prochaine. Voilà.
Et ben, bonne chance.
Ben oui, merci. C'était ça ou la batterie, le piano. Je me suis dit, bon, le piano, on habite au 5e étage, ça va être un peu compliqué. La batterie, ça va être encore pire, donc voilà, j'ai opté pour la trompette.
Merci beaucoup, Ashley.
Mais merci à toi pour ton accueil et ta bienveillance.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.